Chou Podcast,
le podcast de référence sur l'univers canin pour tout savoir sur les races de chiens, la santé, l'alimentation et l'éducation.
Chou Podcast par Maude Fédière, l'émission que mon chien ne rate jamais.
Vous savez, parfois, il y a des sujets qui proviennent d'expériences vécues ou de témoignages de proches. Et cet épisode est dédié à ma sœur Julie, qui vient d'adopter Yuki, une magnifique setter irlandais. C'est son histoire qui a déclenché mon envie d'aborder le thème du puppy blues dans ce nouvel épisode de Chou Podcast. D'abord, vous entendrez son témoignage, tel que je l'ai reçu. Elle vous livre à cœur ouvert les difficultés qu'elle a rencontrées à l'arrivée de son chiot. Vous allez aussi retrouver Audrey Ventura de Sino Consult, qui est coach en comportement canin et humain. Elle a été mon invitée sur l'épisode qui a traité de l'adoption du chien adulte et elle interviendra ici pour apporter de précieux conseils. Souvent, ceux qui traversent cet épisode du Puppy Blues n'osent pas en parler et j'espère que cet épisode va libérer la parole et aidera tous ceux qui sont concernés à passer cette période délicate.
Bonjour, donc je suis Julie, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai deux filles qui ont 8 et 13 ans et nous vivons donc dans un lotissement avec un jardin qui fait à peu près 200 mètres carrés en campagne périurbaine de Grenoble. C'est un endroit très calme, on est plutôt bercé par le chant des oiseaux, on est entouré de chevaux et puis pas très loin encore de vaches, de moutons, voilà, donc plutôt vraiment campagne. Je suis en télétravail 2 à 3 jours par semaine et mon mari était au chômage mais vient de retrouver un travail de commercial avec une grande zone géographique et donc absent toutes les semaines, 3-4 nuits par semaine. Alors pour nous, c'est vrai que c'était une évidence que d'adopter un animal et notre choix s'est porté vers le chien pour partager une nouvelle expérience à deux. Premier choix, c'était en 2008 pour un cavalier King Charles qui s'est nommé Duna. Elle a partagé 13 ans de notre vie et a accueilli nos deux filles avec beaucoup de bienveillance. Elle a été vraiment formidable et exemplaire. J'ai mis 1 an et demi à faire mon deuil et commencer à imaginer la suite avec un nouveau compagnon. Mais pour cela, je voulais un chien très différent, pour justement ne pas avoir à le comparer avec Duna. Donc mon choix s'est porté vers un chien moyen-grand, résistant, sportif, pour partager mon plaisir de la randonnée. Puis les filles en plus avaient grandi, donc on pouvait se permettre maintenant d'avoir un chien un peu plus dynamique. Et puis pourquoi pas après pour moi de découvrir la canirando, les balades, raquettes en hiver. Alors bien qu'étant pas chasseur, on a toujours été attiré avec mon mari par le setter irlandais. On a mis du temps à trouver l'élevage qui nous correspondait et puis qui pourrait apporter tous les éléments clés au bon développement de notre chiot. C'est auprès d'Hortense Provost que notre choix s'est porté et nous lui avons pris une petite femelle donc que nous avons appelée Yuki. Alors autant dire que l'arrivée du cavalier King Charles n'avait pas du tout été préparée et s'est fait très naturellement pour beaucoup de choses, autant celle-ci l'a été comme jamais. Après l'expérience d'un chien et puis de deux enfants, je me suis dit que je pouvais améliorer certaines choses en organisant mieux son arrivée notamment. J'ai alors écouté le podcast de ma sœur Maude sur la préparation de l'arrivée du chiot. Nous avons acheté les basiques, la laisse, la longe, collier, le panier, les gamelles, le tapis de léchage, les jouets. Nous sommes équipés d'une barrière pour séparer la pièce de vie des escaliers, d'un parc bébé. Nous avons clos le jardin aussi, convenablement, avec une bonne hauteur et quelque chose de robuste. Nous avons rendu inaccessibles toutes les plantes de la maison et du jardin qui étaient à sa portée. Nous avons protégé tout ce qui pouvait être mordillé. Nous avons aussi pris une éducatrice en éducation positive et puis positionné son rendez-vous 5 jours après l'arrivée de Yuki. Côté travail, je pouvais prendre aussi 2 semaines de congé, mais je préférais là me mettre en télétravail à 100% sur les 2 premières semaines, parce que je savais aussi qu'elle allait quand même dormir beaucoup, et prendre des RTT par contre les mercredis après-midi pour passer du temps avec elle sur les 6 premières semaines, puis avoir des créneaux avec l'éducatrice. Et puis me reposer aussi. Pour le télétravail, j'ai ensuite finalement adapté pour, après les 2 semaines, être 2-3 demi-journées en présentiel. Comme ça, ça lui permet d'apprendre la solitude un peu en douceur, sur 4-5 heures. Et moi, de reprendre une vie sociale aussi en dehors de la maison et de voir mes collègues plus régulièrement. À son arrivée le vendredi soir, elle était toute stressée, mais toute mignonne. Elle a même mangé, fait ses besoins. Nous, on avait tellement hâte. On était à la fois tous heureux, très heureux, mais aussi stressés de démarrer une nouvelle vie aux côtés de ce petit être. On se demandait si elle allait être heureuse avec nous, si la séparation avec sa maman et ses frères et sœurs ne serait pas trop difficile pour elle. Est-ce qu'on serait à la hauteur? Et aussi qu'on souhaitait qu'elle soit en bonne santé le plus longtemps possible. Pour les nuits, j'étais organisée pour dormir dans le salon avec elle les premiers jours, car nous avons toujours voulu garder une séparation entre la zone nuit sans chien et puis le reste des pièces de vie avec le chien. Je voulais qu'elle soit rassurée et l'accompagner aussi dans la propreté, pouvoir la sortir quand elle me le demandait. Donc la première nuit, elle a gémi un peu, elle venait voir si j'étais dans le canapé, elle me demandait pour sortir, faire ses besoins. Au bout de 3 jours, elle a fait des nuits de 6 heures, mais le réveil à 5 heures du matin piquait un peu, surtout qu'elle se rendort, mais pas moi. Donc, ça commençait à devenir assez fatigant. Du coup, au bout d'une semaine, comme j'étais trop fatiguée, l'éducatrice m'a dit qu'il fallait que je remonte dans mon lit. Et pour mieux dormir et puis de mettre une alaise la nuit, et en effet ça a fonctionné. Les mordillements, alors dès le lendemain, nous avons commencé à réaliser que ces mordillements n'étaient pas ceux de notre Douna, que ça faisait mal et qu'on n'arrivait pas à lui faire des câlins et qu'il y avait systématiquement les dents et les griffes. Donc les filles étaient vues comme de véritables sœurs avec qui elle a envie de jouer à sa manière. Et nous, on n'était pas très rassurés et on commençait à réaliser que j'allais devoir la gérer seule entre mon mari qui était en déplacement et mes filles qui ne pourraient pas s'en occuper dans un premier temps. Malgré toute leur bonne volonté, c'était la première grosse déception. On a essayé de reproduire des choses qu'on avait lues, comme le aïe, quand les petits chiots crient d'un son très aigu pour dire qu'ils ont mal. Donc ça fonctionnait au début, mais très vite, ça ne fonctionnait plus. Après, on a utilisé les jouets pour détourner son attention. Et puis, ça ne suffisait pas. Chaque jour, j'avais envie de lui faire découvrir quelque chose de nouveau. La voiture, l'école, les promenades. Le mercredi, j'ai décidé de l'emmener avec moi chez l'opticien pour récupérer mes lunettes. Ensuite, à côté, il y avait un botanique. Donc, je me suis dit, je vais aller lui choisir le harnais. Comme ça, j'attendais de l'avoir avec moi pour la taille. Peut-être ça faisait trop. En tout cas, son caractère commence à s'affirmer. Et si ce qu'on lui dit ne lui plaît pas, elle se retourne et quelque sorte attaque. Elle grogne, elle aboie. Et là, je suis seule à gérer, je suis fatiguée. Le matin, c'est le pire moment de la journée. Donc, un vrai petit démon après avoir bien dormi. Quand nous, on n'a pas dormi ou mal dormi, du coup, ça devient compliqué à gérer, à faire face à cette situation-là. Puis on a des contraintes pour préparer les enfants pour aller à l'école. On doit aussi nettoyer le sol dès le réveil parce qu'il y a des petits débordements et puis enlever justement les alaises et tout ça sans qu'elle se jette dans nos pattes ou qu'elle attrape le truc pour s'amuser avec. Voilà, si on la met dehors, elle aboie. Si on va réveiller les voisins, si on la garde à l'intérieur, elle aboie. Si on la met dans le parc, donc elle réveille la famille. Bref, voilà, c'est difficile. J'ai commencé un peu à déprimer, angoissée, me dire j'ai tout fait au mieux pour l'accueillir dans la douceur et je me retrouve avec une chienne survoltée que je n'arrive pas à calmer. Même en balade, si je la porte, parce que le rappel suffit pas, elle se met à grogner. Alors, autant dire que j'attendais le rendez-vous avec l'éducatrice Charlotte avec impatience. Donc, avec l'aide de Charlotte, je réalise que du coup, la fatigue peut aussi être une source de cette agressivité. Comme nous, les humains ou les bébés, excité ne veut pas dire en pleine forme. Et donc, j'en ai peut-être trop demandé les premiers jours, qu'il fallait peut-être ralentir le rythme et lui laisser se faire à son nouvel environnement, tranquillement, raccourcir les balades, arrêter de lui faire des câlins quand elle se repose, lui proposer de la mastication si les jouets ne suffisent pas, et puis utiliser le parc, ne pas hésiter. Donc du coup, je l'ai installé. Et en effet, ça lui permet vraiment de se canaliser, se recentrer dans le parc, et en général, elle s'endort. Les astuces sont pas immédiates, et du coup, oui, le Le vendredi qui suit, donc j'avais vu Charlotte le mercredi, le vendredi, j'étais complètement effondrée. J'ai appelé ma sœur Maude, puis mon mari est arrivé, puis là il a pris le relais, donc ça m'a aidée. Il a réalisé un peu la complexité de la tâche. Et puis progressivement, bah, les astuces, voilà, se sont mises en place, surtout le parc, comme je disais, hein, qui est vraiment un endroit, un refuge pour elle. Puis je lui ai installé aussi la caisse de transport, donc c'est une caisse en tissu, un petit peu transparent, enfin, avec des trous. Puis je l'ai mis dans un coin le plus caché à l'écart, hein, de la pièce de vie, là où on passe pas sans arrêt. Et en fait, elle adore aller s'y reposer, du coup. Elle qui en avait peur dans la voiture, là, au contraire, c'est son endroit où elle dort vraiment, profondément. Voilà, j'arrive à avoir quelques petits moments maintenant de bonheur, mais je suis tellement fatiguée que, voilà, je suis au début plutôt déçue dans l'incompréhension, le questionnement de est-ce que je vais y arriver? Car de mon côté, bah, j'ai l'impression d'avoir fait au mieux. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Personne ne parle en fait de cette partie de la vie, du bébé, de l'adolescent. Sur les forums, tout le monde montre des photos quand tout va bien. Et en fait, c'est vrai que j'ai réalisé qu'ils avaient tous plus d'un an. Et qu'il n'y en a pas beaucoup qui partagent cette phase qui est difficile et qui nous disent à quoi s'attendre. Voilà. Ce qui n'est pas facile aussi, c'est de recevoir beaucoup de conseils, parfois contradictoires, on ne sait plus lesquels suivre. Alors, par exemple, lorsqu'elle est arrivée, elle avait les selles molles, elle découvrait l'herbe, elle en mangeait pas mal, je me disais que ça pouvait être ça, bon, ça pouvait être tout un tas d'autres raisons aussi, hein. Mais je suis allée voir la vétérinaire qui m'a dit, oui, surtout, il ne faut pas la laisser monter de l'herbe, il faut la surveiller quand elle est dehors. Et puis bah, l'éducatrice, elle m'a dit l'inverse. Elle m'a dit qu'il y avait peu de chances que ce soit l'herbe qui lui donne la selle molle, que du coup, quand ils étaient chiots, ils avaient souvent les selles comme ça. Il fallait simplement surveiller qu'elle ne mange pas les herbes exotiques, enfin, ou les plantes exotiques, on va dire, de loin, mais qu'on lui laisse son autonomie dans le jardin, que c'était son moment à elle et qu'elle serait moins frustrée.
Ce qui m'a beaucoup aidée à passer le cap difficile, ça a été sans aucun doute le fait de pouvoir redormir normalement, donc la qualité du sommeil et la quantité, c'est-à-dire retrouver mon lit, et puis en effet me coucher plus tôt que ce que j'avais l'habitude de faire pour pouvoir me lever plus tôt pour m'occuper de Yuki quand elle en avait besoin. Alors les conseils de l'éducatrice ont aussi été très bénéfiques et m'ont apporté bah, toute la connaissance sur le mordillement que je n'avais pas. Et donc effectivement, comment pouvoir occuper un chiot, le détourner de sa cible favorite qui sont les pieds. Et puis après, ben donc de pouvoir avoir quelque part l'aval de la personne, de l'éducatrice aussi, pour pouvoir mettre le chiot dans le parc que je n'avais pas monté, que j'avais prévu mais pas monté. Et en effet, ben voilà, ça a permis vraiment de la canaliser, de lui délimiter l'espace et de l'apaiser en fait. On a l'impression qu'on les canalise dans un endroit et que du coup on les prive de liberté, mais en fait, ils ont besoin d'être cadrés et ça leur fournit un cadre. Et la plupart du temps, elle s'endort très vite dès lors qu'on la met et qu'elle n'arrive pas à trouver son sommeil en fait toute seule, trop excitée par tout ce qu'elle voit. Ensuite, eh bien, la partie aussi écoute des proches. Sans aucun doute, les personnes qui ont vécu ces situations ou qui ont un chien et peuvent comprendre ce qu'on vit, voire même des petits-enfants, s'ils arrivent à voir un peu les similitudes. Et donc, de pouvoir se confier sans être jugé, bah, c'est très important aussi dans ces moments-là, hein, de ne pas penser qu'on est seul et puis qu'on n'est pas compris. Donc, voilà, là, c'est vraiment très important de pouvoir avoir ça.
Bonjour Audrey.
Bonjour Maude, merci de m'avoir invitée.
Eh bien, bienvenue à nouveau sur le podcast. Tu viens d'entendre le témoignage de Julie. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous donner une définition de ce que c'est le puppy blues?
Alors le puppy blues est traversé par les personnes qui viennent d'adopter un chiot. C'est un épisode dépressif, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, épisode dépressif plus ou moins long en fonction des contextes et des personnes. Et c'est un épisode au cours duquel la personne va ressentir une foule d'émotions négatives autour du chiot, un grand sentiment d'incompétence, beaucoup, beaucoup de fatigue, de l'irritation aussi, une perte de patience par rapport au comportement naturel du chiot. et jusqu'à, malheureusement parfois, envisager de rendre le chiot à son éleveur parce que la personne pleure beaucoup et n'en peut plus.
C'est un cas particulier ou est-ce que tu rencontres ce souci fréquemment ?
Non, ce n'est pas un cas particulier. Je rencontre ce souci fréquemment, mais je le rencontre de plus en plus régulièrement. Ça, c'est un fait et je pense que c'est quand même sociétal.
D'accord. Et les difficultés rencontrées par les personnes qui viennent te consulter, sont-elles différentes ou similaires à celles de Julie ?
Alors, dans un premier temps, les problèmes ressemblent à ceux de Julie. C'est ce sentiment d'incompétence et de fatigue qui revient, lié à des comportements répétitifs qui sont la malpropreté, les mordillements, l'excitation du chiot, qui sont des comportements normaux. Et du coup, on a un sentiment de tristesse, de fatigue, d'exaspération parfois, par rapport à ce petit être dont on avait forgé une image bien lisse. Et ensuite, il y a la réalité du chiot, qui la plupart du temps se révèle être un petit monstre.
Et est-ce que d'ailleurs tu te rends compte peut-être, selon le type de chien de compagnie, chien de travail, qu'il y a une différence au niveau aussi des mordiments ou de l'excitation, ou tous les chiots sont comme ça, ou est-ce qu'il y a une histoire aussi avec les lignées qui peuvent être apparentées ?
Alors oui, il y a l'histoire, comme tu dis, de la lignée. En effet, les chiots issus de lignées de travail vont sûrement être plus actifs, plus excitables, vont produire des réponses comportementales plus rapides. Mais la malpropreté, les mordillements et l'excitation du chiot restent des comportements tout à fait normaux qui passent avec le temps ou qui ne passent pas ou qui passent lentement en fonction de la réponse comportementale qui est apportée et aussi, il faut bien le dire, en fonction de l'état psychologique de l'humain qui est en face. Si cet humain est fatigué, ce sera évidemment plus difficile.
Alors ça, j'ai demandé, comment se manifeste un puppy blues ? Tu nous l'as expliqué, souvent des personnes qui sont du coup dépassées, fatiguées, c'est ça ?
Oui, alors il y a ce que j'entends souvent, c'est « je ne suis pas faite pour ça ». Je me rends compte que je suis nulle. Je ne sais pas faire, je n'y arrive pas. Et c'est très désagréable de ressentir tout ça. On a en plus de la fatigue qui s'installe, de l'agacement qui se transforme en irritation, qui se transforme en exaspération jusqu'à ne plus pouvoir supporter le chiot. Parce que aussi on est déçu. On se dit, malgré tout ce que je peux faire, tout ce que je peux lui apporter, ça ne marche pas. Et alors là, c'est de l'ingratitude que l'on ressent. Voilà, et le chiot, évidemment que le chiot est ingrat. Le chiot se croit au centre de l'univers, de votre univers. Il est vampirisant, le chiot. Et jusqu'à, malheureusement, dans les cas ultimes, envisager de rendre le chiot à l'éleveur ou clairement rendre le chiot à l'éleveur parce qu'on n'en peut plus.
Et justement, on parlait de ces personnes. Est-ce qu'elles présentent souvent le même profil ?
Alors, oui et non, j'ai toujours un peu de mal à parler de profil de personne parce que chaque personne va en parler un peu différemment et chaque personne a son vécu. Et j'essaie, comme avec les chiens, de ne pas établir de profil. On va avoir des personnes qui sont dans le contrôle, mais de là à dire que, de manière générale, ce sont des gens dans le contrôle, il y a quand même une différence. En tout cas, avec le chiot, ce sont des gens qui sont dans le contrôle de la situation. Elles ont besoin de ressentir très vite qu'elles vont maîtriser. Et elles ont du coup essayé de maîtriser avant même que le chiot n'arrive. Donc là, vraiment, ça, c'est le pilier du baby blues. C'est le fait de vouloir s'informer à mort, tout lire, tout savoir, voilà. Et en fait, parce qu'on va croire du coup que parce qu'on fait tout ça, on ne peut pas avoir de problème.
Des personnes souvent très préparées, finalement.
Trop préparées. Et on n'est jamais assez préparé. Donc, de toute façon, ça n'en finira jamais. Donc, pourquoi tomber dans cet excès? Voilà, c'est par anxiété. Et alors, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont anxieuses de manière générale. Ce sont des personnes qui appréhendent le fait de devoir s'occuper d'un chiot. Et puis, il y a aussi, à l'inverse, parce qu'on a quand même le phénomène totalement inverse, ce sont ces personnes qui savent, elles savent le chien, elles connaissent. Elles en ont eu un, deux, trois avant ce chiot, elles savent. Et là, elles vont tomber sur un chien, un chiot, qui va remettre tout en question. Et ces personnes-là sont autant en peine que la personne dont j'ai parlé juste avant.
Des profils assez, très différents dans les deux extrêmes, quoi.
Moi, de mon point de vue, de mon expérience, j'ai quand même l'impression que les personnes les moins touchées, les personnes les plus à l'aise avec l'adoption d'un chiot, ce sont les primo-adoptants. Ça peut être surprenant, mais moi je pense que c'est tout simplement parce que ce sont des gens qui n'ont aucun a priori. Et j'ai en tête un couple de clients qui, pour le coup, en plus, ont une chienne qui n'est pas facile, qu'ils ont eu bébé, ils l'ont adoptée toute petite, et ils n'avaient jamais eu de chien avant. Ils ne connaissaient pas. Et qui, dès le départ, ont fait appel à moi pour tout. Mmh. Voilà, on veut que vous soyez là, parce que nous, on n'y connaît rien.
Du coup, ils n'avaient pas d'attente.
Exactement. Pas de comparaison avec le chien d'avant, avec les deux ou trois chiens qu'on a eu avant. Pas de « j'ai déjà eu des chiens, du coup, je m'y connais un peu ». Et ils m'ont répété dès le départ « nous, on est là pour apprendre ». Je peux vous dire que vu la chienne qu'ils sont en train de gérer, déjà, heureusement qu'elle est avec eux, et ce sont des gens qui vivent très bien la situation. Ils n'ont pas connu du tout le puppy blues et n'ont... Ils prennent les choses avec beaucoup, avec une belle philosophie de « on est là pour apprendre » d'elle, à son rythme. Et ils sont détendus, sont dans le lâcher-prise et ça les passionne parce qu'ils apprennent énormément. Ce n'est pas la première fois que je me fais cette réflexion. Là, je parle d'eux, mais j'ai eu plein de gens comme ça. En général, quand les gens m'appellent et me disent « je ne connais pas du tout le chien, j'en ai jamais eu, et là, voilà, du coup, j'aimerais bien être accompagnée parce que... » Bon, je sais en général que ça va plutôt bien se passer.
Ah ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que, tu vois, Julie, elle le dit au début. Peut-être j'étais trop préparée. Avec la première chaîne, ça s'est bien passé parce que j'avais pas d'attente et j'étais pas vraiment préparée. Et ça fait un peu le pendant avec ce que tu dis.
Mais oui, ce que dit Julie est frappant. Lorsqu'elle dit que l'arrivée du cavalier King Charles n'était pas préparée, elle s'est faite naturellement, ce sont ses mots. Et paradoxe, pour le setter, elle s'est préparée comme jamais. Elle dit comme jamais. Mais on a envie de lui dire, mais pourquoi avez-vous changé une équipe qui gagne?
Et alors, quels sont tes conseils pour faciliter l'arrivée du chiot dans la famille?
Alors, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et les meilleurs conseils sont les conseils personnalisés. Donc forcément, là, on va donner des conseils assez généraux, mais qui peuvent aider quand même. Qui vont déjà nettoyer une bonne part des comportements qui peuvent créer des problèmes. Déjà, je pense qu'il y a du recul à prendre avec les réseaux sociaux. Quand je dis que c'est sociétal, quand je dis que c'est un problème qui a toujours existé, mais qui s'accroît, et que je le vois dans mon métier de plus en plus souvent, c'est à cause des réseaux sociaux, d'Internet, de l'accès à l'information facile. Évidemment, il y a d'abord ce côté, lorsque l'on regarde sur les sites internet des éleveurs, lorsque l'on va sur les pages des professionnels ou lorsque l'on regarde les vidéos sur Instagram des chiots, c'est magique. Tout est mignon, tout est lisse, et alors on va voir des gens s'en sortir très bien. Mais c'est un subterfuge. C'est la magie de la vidéo, la magie du montage parfois, et puis aussi le fait de regarder quelqu'un faire des choses avec un chien, qui est déjà rompu à l'exercice, alors on va se mettre une pression. On va se dire, si tous ces gens y parviennent, et que moi je n'y parviens pas, c'est que je suis nulle, c'est que je suis incompétente. Il y a aussi cette pléthore d'informations, qui est d'un côté magique, mais de l'autre côté, c'est un piège, parce qu'on va du coup avaler une quantité phénoménale d'informations que l'on ne va pas digérer. Parfois, on va se retrouver aussi face à des informations qui sont totalement contradictoires, ou plutôt, on va croire que ces informations sont contradictoires. Mais lorsque l'on lit les articles de professionnels, lorsqu'un professionnel écrit un article, il va parler au plus grand nombre. Ensuite, si l'on veut avoir un conseil personnalisé, il faut contacter ce professionnel, faire un appel à un accompagnement individualisé. Ça n'existe pas sur Facebook, ça n'existe pas sur les réseaux sociaux. Et du coup, on va vite être déstabilisé parce qu'on va voir que l'un conseille quelque chose et que l'autre conseille autre chose. Mais ces conseils ne sont pas forcément contradictoires. Cela dépend du chiot. Un chiot pour un conseil, et là, ce professionnel-là choisit de parler de cet angle-là, là où moi, peut-être, je vais aborder le problème sous un autre angle. Mais la personne qui n'y connaît rien, le profane, va être perdu, se sentir seul avec son chien, et dire de toute façon, tous ces professionnels ne sont pas d'accord entre eux. Alors, parfois, c'est le cas. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord. C'est qu'en fait, il faut se faire accompagner. Avec un chiot, on a besoin d'un accompagnement individualisé, ne serait-ce que pour entendre ce phénomène de puppy blues sans jugement. La personne, à ce moment-là, va avoir besoin qu'on l'écoute, qu'on l'entende, qu'on entende son agacement, qu'on entende son irritation, sa déception, et parfois même qu'on l'entende dire « j'envisage de m'en séparer ». C'est comme ça qu'on va l'aider. Alors ça, c'est une première chose, c'est d'aller voir un professionnel et de tout lâcher, de dire « j'ai besoin d'aide, je ne m'en sors pas ». Après, il y a aussi le fait de relativiser, parce que c'est courant, c'est normal. Accueillir un chiot, c'est difficile. C'est presque aussi difficile que d'accueillir un enfant. Il y a les 9 mois de gestation où on va lire beaucoup sur le bébé, sur les magazines, les livres, la psychologie, la pédopsychologie. Et puis, c'est pas pour ça qu'on n'aura pas de problème. C'est pas pour ça qu'on va s'éviter les pleurs, les coliques. Ben avec le chiot, sans faire de mauvaises comparaisons, c'est le même phénomène. C'est que c'est normal, c'est difficile d'accueillir un chiot, et le chiot, je le répète, est un petit diable. D'ailleurs, Julie le dit très bien, elle parle de démon. Elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle ne le comprend pas. Et ça, c'est quelque chose de normal. Mais ce sera moins difficile si on est moins dur envers soi-même et moins exigeant envers soi-même. Il y a aussi cette absence, cette perte de confiance liée à la perte de bon sens. Et ça, c'est très palpable dans notre société et pas seulement que pour le chien. Les gens ne se font plus confiance du tout, et alors on a des gens qui ne vont plus rien faire par peur de mal faire. Des gens qui sont constamment en train de se poser la question « est-ce que je suis bienveillant ?» Et ça, c'est l'écueil de l'éducation positiviste par opposition à l'éducation positive que je pratique et que je prône, évidemment. L'éducation positiviste, c'est un extrême et les extrêmes ne sont jamais bons. L'éducation positiviste a du coup un rôle à jouer dans ce phénomène très prégnant du puppy blues parce que les gens ont peur de devenir maltraitants parce qu'ils vont mettre des limites à un chiot. On n'ose plus rien dire, on n'ose plus rien faire à cause de ça.
Justement, par rapport à ça, Audrey, Julie disait dans son témoignage, voilà, les mordiments étaient très fréquents, que bon, enfin, c'est toujours actuellement le cas. Et quand elle m'a eu au téléphone, elle m'a dit, je suis perdue, ça devient insupportable, et je n'ose pas dire non, puisqu'on m'a dit qu'il fallait faire d'abord le aïe, rediriger, mais moi je redirige vers un jouet, ça dure 2 secondes, et puis elle se réattaque au mollet, et on peut plus même s'asseoir sur un canapé, parce que sinon, en fait, elle vient et elle nous mord les mollets. Et donc, j'ose pas dire non. Et alors là, je te pose la question, Audrey, est-ce qu'on peut poser des limites et on peut dire non ?
Mais oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut dire non à un chiot. Lui dire non, c'est poser une limite et doit s'accompagner de non, je ne veux pas que tu fasses ça. Par contre, je veux bien que tu fasses ça. Donc, c'est ne pas inhiber un besoin, parce que le mordillement est un besoin chez le chiot. Le mordillement, c'est l'expression de gencives qui sont sensibles, et aussi l'expression des patrons moteurs de mastication, de morsure, qui sont là. Donc, le chiot doit pouvoir les exprimer. Donc, évidemment qu'on peut lui dire non, sans colère, mettre un stop et orienter sur une activité masticatoire plutôt alimentaire. Et ça, oui, on peut, bien sûr, que c'est important de mettre un cadre. Et voilà la question. D'ailleurs, oui, Julie le dit, elle n'ose pas dire non, on n'ose plus apporter des réponses qui sont fermes, mais une réponse ferme n'est pas une réponse maltraitante. Une réponse ferme est une réponse, peut-être tout à fait une réponse adaptée. Donc voilà où on en est aujourd'hui avec l'extrémisme de l'éducation positive. Mais je répète, l'éducation positive, c'est l'éducation à choisir, c'est celle que je pratique. Maintenant, à l'intérieur de l'éducation positive, il y a plein d'outils, il y a plein de choses à connaître. Et l'éducation positive, c'est celle qui respecte les émotions du chiot, c'est celle qui respecte l'éthologie du chien. Ce n'est pas que le renforcement positif. Le renforcement positif est un outil indispensable que l'on doit connaître. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la gestion environnementale, il y a plein de choses qui vont faire qu'on est dans une éducation positive, on est dans le respect du chien, de l'espèce, de ses besoins, de ses motivations personnelles. Mais bien sûr que dans tout ça, on va mettre un cadre et que les limites sont souhaitables et que dire non, oui, c'est possible, ça fait partie de notre vocabulaire. Il n'est pas possible de vivre sans dire non. Et c'est aussi libérateur pour l'humain. C'est important d'avoir le droit de dire non quand on est mordu par un chiot. Parce que, faut-il le rappeler, c'est une agression, ça fait mal. Et là, du coup, on se retrouve avec des gens qui ne savent plus quoi faire, qui ont l'impression d'être agressés, qui se sentent vampirisés, qui n'ont pas les réponses adaptées. On ne va pas les écouter parce que dès qu'on va parler d'agacement, d'irritation, on va les juger. Mais il ne faut pas s'étonner qu'au bout du compte, la personne envisage de se séparer de ce chiot. Finalement, c'est elle qu'il faut aider.
Exactement. Ok, bah, merci beaucoup, c'est très clair, Audrey. Et donc, pour revenir en effet à ce qu'on peut mettre en place pour, et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour aider les gens qui se retrouvent dans cette situation, qu'est-ce que tu as d'autre comme conseil ?
Alors, lorsque je suis face à une personne qui, dans son témoignage, dans une séance, va commencer à exprimer du mal-être, va commencer à exprimer quelque chose qui ressemble à un épisode dépressif, la personne souvent pleure. Lorsque je sens qu'elle est fatiguée et qu'elle a des choses à dire, déjà je vais la laisser parler. Et ensuite, la première chose que je vais lui conseiller, c'est de mettre de la distance avec le chiot. Alors, cette distance, elle est saine et elle est salutaire pour les deux. Et elle peut être obtenue lorsque la personne a un relais. Lorsque la personne vit avec une autre personne qui va pouvoir s'occuper du chiot. Ça, c'est très important. Ça va mettre de l'apaisement. Parce que le phénomène auquel on est confronté aussi aujourd'hui, c'est qu'on a un peu le phénomène répétitif. Et moi, dans mon travail, c'est très prégnant. Hein. Vraiment, je ne parle que de ce que je vois, mais quand même, c'est quelque chose de très, très répétitif. C'est tout pour une seule personne. C'est-à-dire qu'on tombe rapidement dans le piège de « je finis par être la seule à m'occuper du chien ». Et d'ailleurs, c'est ce que dit Julie dans son témoignage. Alors qu'elle en a parlé avec ses enfants, alors qu'elle en a parlé avec son conjoint, elle finit par se retrouver seule avec le chiot. Mais parce que, évidemment, on ne peut pas vraiment compter sur les enfants, même les adolescents. Puisque d'abord, le chiot, les enfants l'ont aussi imaginé un peu comme une peluche, quelqu'un à qui on va pouvoir faire plein de câlins. Sauf que très souvent, le chiot, à peine vous allez le prendre dans vos bras et le lever du sol, il va vous mordre. Il a envie que vous le remettiez par terre. C'est plutôt lui qui va venir vous assaillir. Et lorsque vous voudrez y aller, il ne sera pas forcément d'accord. Voilà, ils ne sont pas tous comme ça. Mais ça, c'est ce que les gens me racontent. Et je vois très bien les petits phénomènes. Et alors, très vite, les enfants vont s'en désintéresser. Finalement, ce n'est pas si drôle. Oui. Finalement, c'est même plutôt chiant. Voilà.
Ou ils en ont peur, comme là, c'est ce qui se passait au début. Ouais.
Et c'est ce que j'allais dire. Ou alors, en effet, ils finissent par en avoir peur. Parce que quand je dis que ce sont des petits monstres, j'ai l'air de ne pas mâcher mes mots, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et alors, on a aussi le conjoint qui travaille, le partenaire qui travaille, et du coup, on a d'un seul coup la femme, la mère, qui va, en plus de ses enfants, en plus de son travail, en plus de sa vie quotidienne, devoir gérer 100% de la vie d'un chiot. Ce n'est pas possible. Donc très vite, on va dire à la personne, il faut trouver un relais. Il faut discuter avec les membres de votre famille. Il y a de la distance à mettre avec votre chiot. Et cette distance va vous faire du bien. Vous devez vous reposer. Et aussi, l'isolement du chiot est souhaitable parfois. L'espace solitaire avec du léchage, avec une mastication alimentaire adaptée au chiot. Aujourd'hui, on est très bien conseillé et on a plein d'enseignes qui vont vous proposer les puppy box et vous serez armé pour offrir une mastication alimentaire de qualité sans avoir peur que le chiot s'étrangle ou alors même si au départ il faut évidemment donner en présence sous surveillance, mais voilà, on a des choses maintenant qui sont très très adaptées au chiot, ne serait-ce que le léchage qui est quelque chose qui est de nature à calmer le chiot, à le fatiguer de manière saine, à l'occuper, à développer son autonomie sans vous. Et c'est très très souhaitable. Et puis c'est aussi avoir la pertinence de choisir d'être avec le chiot quand il est calme.
Exactement, et Julie disait d'ailleurs que ça l'avait beaucoup aidé, le conseil de l'éducatrice comportementaliste, qui était de sortir le parc et de mettre la petite chienne dans le parc, et c'est-à-dire de l'isoler quand elle était trop excitée pour qu'elle redescende en pression et qu'elle choisisse le moment de l'interaction. Et quand je dis isoler, c'est l'isoler dans son parc au milieu du salon, bien sûr, et pas de l'isoler dans une pièce toute seule, mais voilà, de choisir le moment.
Oui, parce que ça va permettre au chiot de redescendre en excitation. Parfois, il n'y parvient pas, seul, en fonction des personnalités, bien sûr. Et c'est souhaitable de commencer déjà à apporter le on-off. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et si tu n'y arrives pas, je vais t'aider. Et il m'est arrivé un nombre incalculable de fois de dire à des mères: mais n'avez-vous jamais dit à votre enfant de 7 ou 8 ans, va dans ta chambre te calmer, quand tu seras calmé, tu redescends et on discute. C'est la même chose, c'est d'aider un chien, un chiot, un jeune chien, à calmer ses émotions, à redescendre. Et parce que sinon, il va croire et grandir avec la croyance que ce qui va l'aider à redescendre, c'est votre présence, c'est de s'exciter sur vous, c'est de vous mordre, c'est de vous mordre en secouant la tête, c'est que vous êtes sa zone de décharge, c'est non. Et c'est non, mais ça ne s'arrête pas là, c'est pas juste c'est non et débrouille-toi. C'est je ne veux pas que tu fasses ça, par contre je vais t'aider à le faire autrement, sans colère. Parce que ça c'est très important, c'est de réussir à apporter des réponses fermes, mais sans colère.
Ce qui ne doit pas être forcément évident quand on est...
Fatigué.
Justement, voilà, fatigué. Donc, isoler le chiot dans un parc à chiots, même un parc à enfants, enfin...
Je précise quand même que cet isolement est toujours momentané, de courte durée, que je ne suis pas favorable à l'enfermement dans la cage. Ça n'est pas la même chose.
Ah oui, non, je suis d'accord. C'est bien que tu le précises. En effet, moi, j'avais vraiment en tête le parc à enfants, tu sais.
Voilà, avec, on va restreindre l'espace. On ne va pas laisser le chiot dans un grand séjour. On ne va pas, surtout s'il est très excité. Si, évidemment, on peut le faire sortir, il faut le faire sortir. C'est même mieux de le faire sortir dans le jardin que de le mettre dans un parc. Là, le parc s'est adapté. Il y a certaines personnes n'ont pas de jardin et se retrouvent avec un chiot dans un appartement qui va avoir des zoomies, des moments d'excitation dans la journée. Et c'est souhaitable, en effet, de restreindre l'espace autour du chiot. Je ne parle pas de cage.
Oui. Tu as raison de préciser, oui, tout à fait. Et après, quelles sont tes recommandations pour la nuit? On a entendu que Julie a dormi avec le chiot sur son canapé, qu'elle n'osait pas du coup remonter dans sa chambre, qu'on lui a recommandé, et du coup ça lui a aussi changé la vie puisqu'elle a pu redormir. Est-ce que là-dessus, tu peux réagir et nous donner aussi ton avis et, par tes expériences ?
Alors, mes expériences, elles sont plutôt variées. J'ai des personnes à qui j'ai conseillé de dormir dans la même pièce que le chiot. Donc, la personne va, les premières nuits, dormir sur le canapé. Le chiot sait que la personne est dans la pièce. Ce qui permet d'apporter une réponse assez rapide lorsque le chiot va demander à sortir. Parce que, en effet, il est souhaitable quand même de se lever la nuit pour permettre au chiot de sortir, faire ses besoins. Certaines personnes vont même choisir de dormir avec le chiot dans la chambre, c'est-à-dire que le chiot a son panier sur le palier, à l'étage ou devant la porte de la chambre, et progressivement, elles vont éloigner le panier au fur et à mesure que la confiance s'installe. Mais aussi, il faut dire que certaines personnes vont avoir un chiot qui va se montrer capable de dormir seul dès la première nuit. Les gens vont me dire que tout s'est bien passé, que le chiot a dormi dans le séjour, soit dans le séjour sur sa couche, soit dans le séjour dans un parc, donc une zone du séjour qui a été isolée pour lui et pas une cage. Et ça s'est très très bien passé. Et depuis, le chiot dort seul. Je pense que ça dépend du chiot, mais que ça dépend aussi de la personne. Il est bien évident que si la personne est anxieuse de cette première nuit, moi j'aurais tendance à lui conseiller, ne restez pas avec cette anxiété, dormez avec votre chiot les premières nuits, il n'y a pas de problème.
C'est ça. Sur le canapé, en tout cas, les deux, trois premières nuits, mais si on dort mal, que bien évidemment, on retourne dans son lit, après avec le chiot, peut-être dans la chambre, ou non, mais c'est quand même hyper important,
oui,
le sommeil.
Oui, oui. Le conseil donné par l'éducatrice au bout d'un certain temps de dire « il faut vous reposer, il faut remonter dans la chambre », il est bon, parce que je pense aussi que Julie a affaire quand même à une chienne active, très active, particulièrement tonique. Et c'est du coup plus difficile parce que... et donc oui, le conseil est bon parce qu'après la personne va s'épuiser, bien sûr. Surtout, mais la plupart des gens qui vont dormir avec leur chiot les premières nuits dorment en fait. Parce que le chiot est rassuré de la présence de la personne dans la pièce. Le chiot va dormir, la personne va être réveillée lorsque le chiot va gémir parce qu'il a envie de faire pipi. Et souvent, c'est une fois dans la nuit. Et ensuite, ça passe. Mais là, on a quand même le sentiment qu'elle a affaire à un chiot qui la vampirise même la nuit, qui la réveille, qui veut de l'interaction. Mais comme elle le reconnaît très bien, c'est qu'elle a péché par l'entraînement à l'interaction. C'est-à-dire qu'elle a donné trop d'interactions à son chiot, et c'est un piège aussi ça, hein, c'est de trop interagir avec le chiot en croyant qu'on doit s'en occuper, il faut être toujours là, parce que sinon on est malveillant, parce que sinon c'est pas positif, alors que le développement de l'autonomie, ça n'est pas ça. Il est tout à fait souhaitable que le chiot passe du temps seul dans son jardin, il est tout à fait souhaitable que le chiot passe du temps seul à lécher un tapis de léchage, il est souhaitable de mettre de la distance, d'être là, de surveiller, d'apporter le calme, la sécurité, le bien-être psychologique, mais surtout le développement de l'autonomie. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un chiot, c'est de développer son autonomie et de se rendre compte qu'il est tout à fait bien même quand on ne s'occupe pas de lui. C'est ça l'éducation d'un chiot. Et c'est ça qui va protéger les gens du puppy blues. C'est la distance saine et le fait de bien comprendre ce phénomène que les particuliers ont beaucoup de mal à comprendre, quand même, je le constate, c'est que plus on va répéter des interactions douces à des moments où le chiot est calme, plus on va ancrer la relation douce avec l'humain, avec l'enfant. À l'inverse, plus on va interagir avec le chiot lorsqu'il est agité, et plus on va ancrer la relation agitée avec l'humain et avec l'enfant.
Pour revenir au puppy blues, est-ce qu'on peut définir une durée moyenne du puppy blues? Est-ce que c'est en jours? Ça se compte en mois, en années?
On ne peut pas, parce que ça va dépendre de tellement, tellement de choses. Ça va dépendre déjà, est-ce que la personne est accompagnée? Ou est-ce que la personne considère, comme beaucoup de gens, qu'elle n'a quand même pas besoin d'un professionnel pour éduquer un chien? C'est quand même quelque chose qu'on entend souvent, de personnes qui se sentent insultées quand on leur dit « peut-être tu devrais faire appel à un professionnel de l'éducation ». Et là, les gens ont cette réponse « je ne vais pas faire appel à un professionnel de l'éducation pour éduquer mon chien, enfin ça va ». Voilà. Donc ça, évidemment, que plus la personne sera en difficulté et plus elle va attendre pour appeler à l'aide, et peut-être elle n'appellera pas à l'aide, et plus ça durera. D'accord. Ça, c'est clair que le coaching individuel, là, pour le coup, prend tout son sens dans ce genre de phénomène de puppy blues, qui peut aussi être mis en parallèle avec la personne qui vit avec un chien hyper réactif. J'aimerais rebondir sur une chose intéressante que Julie a dite dans son témoignage. Elle dit, mais moi, personne ne m'a parlé de cette partie de la vie du chiot. En gros, on ne m'avait pas prévenu que ça pouvait être aussi difficile. Alors, je pense que c'est important parce que bon, il y a deux raisons à ça. Il y a évidemment la raison j'ai pas envie qu'on me taxe d'incompétence, donc je vais éviter de dire que j'ai des problèmes avec mon chiot. Sur les réseaux sociaux, la tendance, c'est plutôt de dire qu'on sait tout, on sait tout faire, on a un avis sur tout. Donc, et certainement pas de dire c'est compliqué. Mais surtout, ce qui est positif, c'est que je pense que si finalement les gens n'en parlent pas tant que ça, c'est parce qu'ils oublient. Il y a ce phénomène de l'oubli parce qu'après cette période sensible, il y a cette période formidable où on va rencontrer le chien vraiment, où on va finir par se comprendre, bien s'entendre. Et totalement oublier les nuits sans sommeil, les pipis, les destructions de plantes, les ravages dans le jardin, on oublie.
Comme avec un enfant, finalement, ces périodes compliquées.
Comme avec un enfant, sauf que, oui, c'est ça, sauf qu'avec l'enfant, il y a aussi que ça fait la survie humaine en dépend. Donc il y a un phénomène dans le cerveau qui fait qu'on fait perdre la mémoire à la mère, de l'accouchement, de tout ce qui s'est passé après.
Mais oui, parce qu'à chaque fois, je me dis pourtant, ces personnes peuvent faire un deuxième enfant.
Voilà, la survie de l'espèce en dépend.
Ah ouais, voilà. Non, mais t'as raison. C'est très bien, oui, d'avoir rebondi là-dessus. Tu as raison. Et Audrey, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aggraver le puppy blues?
Alors, ce qui aggrave le puppy blues, c'est le sentiment d'isolement et le sentiment d'être seul avec plein de conseils qui peuvent sembler contradictoires. Parfois, ils ne le sont pas, mais parfois, ils le sont réellement. Et alors, évidemment, quand l'un dit blanc et l'autre dit noir, la personne qui est au milieu ne sait plus à quel sein se vouer. Et là, je dois quand même dire que de mon expérience personnelle, de mon expérience professionnelle, je me retrouve souvent, pas toujours, mais souvent, en désaccord avec les conseils qui sont donnés par le vétérinaire. Qui ne sont pas des conseils de santé, attention, je n'empiète pas sur le domaine de la santé, qui sont des conseils d'éducation. Or, je suis éducateur, le vétérinaire est médecin. Alors, j'entends des choses qui me font parfois bondir, et qui, évidemment, sont de nature à aggraver la situation. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une de mes clientes qui est elle-même en plein épisode difficile avec son chiot, m'a dit que son vétérinaire lui a conseillé de mettre son poing dans la bouche ouverte du chiot de force.
Pour faire quoi ?
À cause des mordiments.
Donc c'était sa solution.
C'était sa solution, c'est si il vous mordille, il faut mettre le poing dans la bouche ouverte du chiot, et du coup c'est très désagréable, et il va arrêter. Et du coup, la dame, alors qu'elle est en travail avec moi, et que je ne donne absolument pas ce genre de conseil. Il faut absolument pas jamais faire ça. Hein. C'est désagréable, c'est de la maltraitance, c'est aggravé. Ben évidemment que ça aggrave le problème, ça excite le chien, le chiot, qui ne comprend pas. Et en plus, c'est d'une contradiction sans nom, c'est-à-dire qu'on veut que le chiot arrête de mordiller, mais on va aller lui mettre la main dans la bouche.
Mmh. Non, bien sûr.
Donc à un moment donné, si vous voulez, avec des conseils comme ça, les gens ne s'en sortent plus. Certains vétérinaires, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, évidemment, heureusement, mais va conseiller de ne pas donner de mastication alimentaire au chiot, parce qu'il risque de s'étrangler. Or, on oublie, comme je disais tout à l'heure, qu'on a aujourd'hui des enseignes très sérieuses, de grande qualité, qui proposent des produits adaptés aux chiots.
Bien sûr. Hein? Bien sûr.
Donc, et le vétérinaire va dire que non, il ne faut pas donner ça parce que c'est très dangereux. Donc, c'est la psychose, hein? On fait peur à des gens qui sont déjà dans une situation fragile avec le chiot. Il ne faut pas sortir le chiot avant qu'il ait terminé tous ses vaccins. Sauf que du coup... Moi, j'ai des gens qui me disent, ils m'appellent, et ils me disent, bah, l'éducation doit commencer quand ? Bah, je dis, si vous voulez, on va commencer le plus tôt possible. C'est quand même souhaitable que vous ayez les bases, quand même, ne serait-ce que du bien-être, de se promener avec le chiot, du suivi naturel, le rappel automatique. Mmh. Et là, les gens me disent, bah non, parce que le vétérinaire dit qu'il ne faut pas sortir le chiot avant qu'il ait terminé tous ses vaccins.
Alors que ça doit être nuancé, c'est pas ne pas les sortir dans des endroits insalubres.
Bah bien sûr, c'est ce que je dis, on va choisir l'endroit où on va faire le coaching, et puis on est là, on va la surveiller, ou on va le surveiller, on va pas le laisser manger n'importe quoi. Mais ce n'est pas envisageable de ne pas sortir votre chiot jusqu'à ce qu'il ait terminé ses vaccins. C'est vous exposer à une foule de troubles comportementaux liés à l'absence de socialisation. Enfin, c'est terrible. On a encore beaucoup de vétérinaires qui donnent ce conseil-là. On a des vétérinaires qui vont vous dire qu'il ne faut surtout pas dormir avec le chiot, sinon vous allez en faire un dominant. J'ai déjà entendu ça, hein, souvent, de dire bah, le vétérinaire dit que c'est une très mauvaise idée de dormir avec le chiot parce que je vais en faire un dominant, parce que le chiot il doit pas monter sur le canapé... On établit tout de suite ce rapport-là, tout de suite, on ne doit jamais l'établir d'ailleurs, hein, le rapport dominant-dominé entre le chien et l'humain, c'est n'importe quoi. Et plein d'autres choses comme ça qui font que la personne ne va plus savoir à quel sein se vouer. Et si là, la personne n'a pas en face d'elle sa professionnelle de terrain, fort de son expérience, fort de ses connaissances, et aussi qui a un certain âge, je pense. Aujourd'hui, je suis aidée aussi par mon âge. Ça m'était beaucoup plus difficile il y a quelques années, lorsque je devais tenir tête à des personnes qui écoutaient leur vétérinaire comme la voix divine.
Bien sûr, bah oui, j'imagine très bien. Non, mais tu as raison de préciser. Donc, ce qu'on retient, ce que les auditeurs et les auditrices doivent retenir, c'est que chacun son métier, qu'on fait appel à un vétérinaire pour avoir des réponses à des problèmes de santé, dans l'ordre de la santé, et que quand on a des questions sur l'éducation, sur le comportement du chien, bah, on fait appel à un professionnel de l'éducation et du comportement. Et je pense que ça, c'est un bon conseil à donner aux gens, de ne pas, en effet... tout mélanger. Et alors oui, on disait que c'est vraiment très important de se faire accompagner, mais je pense que nos auditeurs, auditrices se demandent aussi, mais alors à partir de quand je dois me faire accompagner ? Est-ce que c'est même avant que le chiot arrive ou je place un rendez-vous ? Est-ce que c'est le lendemain de son arrivée, une semaine après son arrivée ? Alors c'est là où je voulais te poser la question, Audrey, est-ce qu'il y a un moment pertinent pour placer ce premier rendez-vous ?
J'ai quand même tendance à conseiller de prendre le premier rendez-vous avant l'arrivée du chiot. Pas la veille, hein, quelques semaines avant. Et chez moi, ces consultations-là commencent toujours par les questionnements, les angoisses, les craintes, les interrogations autour du chiot, autour du chien en général. Les gens, je demande d'ailleurs que les gens préparent cet entretien, cette consultation avec toutes les questions. Et alors, je précise que tous les membres de la famille pourront être présents. Les enfants pourront poser leurs questions, les parents, alors après, le groupe social restreint, hein, pas toute la famille, mais voilà. Et du coup, ça permet quand même, à partir de leurs questions, d'aborder très vite l'éthologie, et de manière plutôt ludique, et aussi de les rassurer sur des questions, par exemple, la première nuit. Et qu'est-ce qu'on fait la première nuit ? On en a parlé tout à l'heure. Alors, j'aborde en général, systématiquement, que la question soit posée ou non, la question des mordillements. Je vais les prévenir. que le chiot fait ça. Je vais essayer de relativiser voilà, les comportements, de les prévenir que ça existe, histoire qu'ils ne se disent pas « Oh là là, mon Dieu, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Est-ce que c'est normal ?» Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même souhaitable de le faire avant que le chiot arrive.
Ok. Pour finir, Audrey, est-ce que tu aimerais t'adresser à ces personnes qui traversent peut-être ce puppy blues en ce moment et qui seraient vraiment ravies de recevoir voilà, un petit message de ta part?
Oui, bien sûr, ce n'est pas grave, c'est normal, c'est humain. Et oui, le chiot est difficile et certains sont plus difficiles que d'autres. Donc, il faut essayer de relativiser et surtout être accompagné. Accompagné d'un professionnel, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, d'aller parler à quelqu'un qui connaît ce phénomène et qui va accueillir votre exaspération peut-être, votre fatigue peut-être, avec bienveillance, sans vous juger, parce qu'on le sait, on connaît. Et puis mettez de la distance, relayez, déléguez à votre entourage, mettez de la distance avec votre chiot, reposez-vous, ne culpabilisez pas de ne plus vous occuper de votre chiot, parce que c'est la voie à suivre momentanément pour reprendre des forces et retrouver l'envie d'être avec lui. Profitez de ces moments de repos pour faire autre chose et aussi pour être avec le chiot lorsqu'il est calme. Ça, c'est vraiment très important. Choisissez d'être avec votre chiot lorsqu'il est calme. Voilà, mais ça passe. Vraiment, ça passe. Et ça passe tellement qu'en fait, vous oublierez.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous.